mandel de Clonté la dernière table.
Bonjour à tous. Je vous ai invité les intervenants de la table ronde à venir s'installer au pupitre ou sur le panel. Merci. Moi, je m'appelle Antoine Mandel. Je suis professeur de mathématiques appliquées à l'Université Paris 1, spécialiste des impacts du changement climatique, surtout dans le domaine économique et financier. Et je suis là un petit peu avec une deuxième casquette parce que un certain nombre de collègues ont dit aussi de créer une petite start-up qui propose des solutions pour la mesure, en fait, c'est très bien ce qui a été dans la table ronde d'avant, des solutions pour la mesure des risques liés à la transition énergétique ou aux risques physiques du changement climatique à partir des travaux qui ont été développés dans la communauté scientifique ces 10 dernières années. Donc, je m'étais associé à ce qui se fait dans l'industrie. Je suis très content d'être ici avec ces 4 panélistes qui vont nous présenter chacune une facette de ce sujet des David qui vont lutter contre le changement climatique. Donc, je vais tout de suite leur passer la parole pour qu'ils introduisent brièvement leur offre, leur entreprise, et puis après, on essaiera d'échanger sur ces sujets de manière plus générale.
Bonjour à tous, Étienne Beaugrand, je suis un des fondateurs de Pégrine et le CEO. Donc Pégrine, c'est une fintech qui est orientée sur le paiement en ligne. On s'adresse aux professionnels du e-commerce, de la food tech et du tourisme. Donc ça, c'est les 3 verticales qu'on impacte sur le marché. Et on s'intéresse depuis le début à la RSE, puisqu'on est un outil pour Microdon qu'on a cité tout à l'heure, pour la rendue en ligne, pour toutes les plateformes qui veulent encaisser des dons pour les associations au moment du paiement. Donc ça, c'est une horizontale qu'on propose. Et la deuxième horizontale qui nous concerne aujourd'hui, c'est le changement climatique. Donc c'est TRI chez nous, ça s'appelle TRI, c'est un algorithme de compensation carbone. Donc on travaille avec différents brokers sur le marché pour aller financer les crédits carbone. Et notre produit, il vient calculer en temps réel, lors d'un achat en ligne, les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation des particuliers. Et je pourrais revenir dessus, évidemment. En gros, on va chercher toute la data qu'on peut trouver sur les plateformes clientes pour présenter un bilan carbone aux particuliers et ensuite à la marque ou aux particuliers d'aller financer un crédit carbone.
Oui, bonjour à tous, Michel Ibanowski. Donc, je suis cofondateur de la société Mipiz. Donc, Mipiz est un acteur qui participe à la digitalisation des opérations financières. Donc, on utilise beaucoup de numérique. On a différentes offres. Et donc, je pourrais notamment pouvoir témoigner sur une partie de notre clientèle qui sont des plateformes de crowdfunding qui développent des financements de la transition énergétique. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels je pourrais apporter un certain éclairage. Et puis, comme acteur du numérique, ça a été un petit peu évoqué là, dans les précédentes tables rondes, on s'est aussi intéressé, nous, à l'impact que l'on avait par rapport à notre propre activité de numérisation de l'économie. Et donc, on met en place une pratique systématique de bilan carbone lorsqu'on est amené à digitaliser un processus numérique. Et donc, c'est une pratique que l'on recommande d'avoir de la part de toutes les fintechs qui sont amenées à mener des opérations de digitalisation, parce qu'il y a vraiment des surprises. Et là aussi, je pourrais témoigner, vous parler de notre propre expérience par rapport à cette pratique de bilan carbone sur les digitalisations processus numériques.
Bonjour, moi je suis... Je suis Antoine Loudenau, je suis chef avec Research Pool en charge d'un certain nombre de sujets qui sont de rassembler de la recherche financière à un même endroit et de faire qu'elle puisse être lue par le plus grand nombre. Il y a un site ouvert qui sert à ça. On peut se dire quel rapport avec la RSE, quel rapport avec l'impact environnemental qu'il peut y avoir là-dessus. Mais la première démarche, c'est que si vous vous trouvez en face de ce que c'est que la recherche financière aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, enfin, il y a un peu plus de 15 ans, c'était des fax qui étaient envoyés dans tous les coins tous les investisseurs du monde et Kofi a dû en recevoir à un moment donné pour vous donner une recommandation sur les sociétés sur lesquelles vous deviez investir. Ensuite, c'est devenu des emails avec des grosses pièces d'attachement, des gigas et des gigas sur vos serveurs qui font que, quelque part, si on se rappelle qu'un email avec un attachement, c'est tellement cool qui brûle 24 heures à l'intérieur d'un bâtiment, ben, ça représente un point assez conséquent. Et que tout rassembler sur un paquet de serveurs uniques sécurisés au sein de Research Pool pour qu'un grand nombre d'acteurs puissent mutualiser le fait de porter cette information financière-là dans le même endroit, déjà, c'était un gain énorme. Qui leur permettait de voir effectivement le gain green qu'il pouvait y avoir. Ensuite, on offre des solutions de traçabilité et la démarche qu'on entend, que je vais peut-être élaborer un petit peu plus tout à l'heure, c'est que des clients asset managers que nous avons ont maintenant l'idée qu'ils doivent parvenir à ce qu'arrive à faire Ecofi aujourd'hui, c'est-à-dire à transformer la totalité de leur offre d'investissement vers de l'investissement totalement socialement responsable, totalement environmentally friendly, avec les labels qu'ils ont choisis. Aujourd'hui, les gérants ont toujours fonctionné, et le sujet, la vraie transition qui est difficile à réaliser, ce n'est pas seulement la transition de la donnée, c'est la transition des usages des gérants dans l'asset management. J'investis depuis des années sur LVMH, je ne sais quoi, je connais tous les potentiels de rendement, je sais quelles sont les divisions, ce qu'elles vont faire, etc. Est-ce que j'ai regardé comment est-ce que cette société, sur ses différentes divisions, faisait évoluer son empreinte? Alors, j'aime beaucoup ce que Driss a dit tout à l'heure. On a toujours regardé le couple rendement-risque en regardant le rendement-risque financier. Maintenant, il faut regarder le rendement-risque extra-financier. Comment est-ce qu'on peut le faire? Il faut mettre à côté ces deux notions de financier et d'extra-financier. Il faut les agréger à l'intérieur d'une même sphère. C'est ce que fait la Sergio.
Bonjour, je m'appelle Kevin Dedieu, je suis directeur R&D et cofondateur de Descartes Underwriting. Descartes Underwriting, c'est une agence d'assurance spécialisée dans les risques naturels. Donc, Descartes a été fondée il y a bientôt un an pour répondre à deux défis. Le premier défi, c'est le défi effectivement, du changement climatique qui rend de plus en plus de risques de plus en plus difficilement assurable, et ensuite de répondre aussi à un besoin des assurés entreprises, donc c'est notre cœur de cible, c'est l'entreprise aujourd'hui, qui reçoit des indemnisations beaucoup trop tard, surtout notamment à la suite des catastrophes naturelles, parfois 6 mois, 12 mois, et qu'entre-temps elles peuvent mettre la clé sous la porte. Et donc, on essaie d'apporter des solutions pour arriver à des solutions qui permettent d'indemniser plus rapidement et de manière plus transparente l'assurance entreprise. Comment nous faisons cela? Nous utilisons toutes les données qui sont disponibles aujourd'hui, notamment objets connectés, capteurs de mesures type température, pluviométrie et autres, caméra, mais aussi tout ce qui est imagerie satellitaire qui nous permet de suivre en temps réel l'évolution du risque, que ce soit du risque d'inondation, du risque de sécheresse ou du risque de feu de forêt. Ce sont des risques qui sont observables maintenant depuis quelques années grâce à l'utilisation au lancement de nouveaux satellites, notamment les satellites Sentinel depuis 2015.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail de chacune des offres en essayant peut-être de commencer par le côté, on va dire, optimiste de la chose, de savoir comment on va se sortir de ces challenges. Donc on va essayer de parler peut-être d'abord de financement de la transition énergétique. Moi, pour avoir pas mal travaillé sur le sujet, notamment pour des projets pour la Commission européenne, on se retrouve souvent dans une situation où, quand on parle aux investisseurs, d'une part, et aux entrepreneurs, d'un autre côté, les gros investisseurs nous disent qu'il n'y a pas d'opportunité jusqu'au marché des green bonds, mais qui est vraiment une classe très particulière d'actifs, il n'y a pas d'opportunité d'investir qui nous convienne avec toute la bonne volonté du monde. Et de l'autre côté, on a des entrepreneurs qui cherchent des financements et qui disent qu'il n'y a pas de financement, et on arrive à certaines conclusions, parfois il y a projet qu'on a fait qui s'appelait Green One, qui est sorti, le rapport est sorti l'an dernier, où finalement les entrepreneurs verts qui avaient réussi à être financés avaient été financés en éliminant la dimension verte de leur image. Okay. Et donc la conclusion avait été, de dire si vous cherchez des financements, il faut pas, c'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Alors est-ce que Research Pool, qui a agrégé l'information, peut-être c'était l'exemple que quoi, le visage que j'ai donné, c'est un peu caricatural, mais comment on peut améliorer le matchmaking dans ce domaine et comment vous pouvez essayer de diminuer un peu les coûts de transaction ou les asymétries d'information dans ce domaine.
Je vais aller au bout de ce que je disais tout à l'heure. En fait, la super démarche, enfin, je suis désolé de faire la pub pour les coffees comme ça, mais enfin, c'est exactement ce que M. Valentin disait exprimé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les frontières entre l'investissement traditionnel et l'investissement avec, en plus, une couche extra-financière complémentaire puisse se rassembler. Donc, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a une problématique sur toute une chaîne de valeur pour obtenir l'information en investissement qu'on peut faire en tant qu'asset manager, avec la question de d'où vient la data, est-ce que c'est de la data qui provient du TPE, PME, sur la base de ces bilans 2017, quand aujourd'hui on est en 2019, qui aujourd'hui, je vais devoir donner une certaine quantité d'informations sur le fait que moi, je pense que c'est une information lag. Est-ce que c'est de l'information que je vais avoir qui a été déclarative et qui a été émise par les différentes personnes dans lesquelles je souhaite investir? Est-ce que c'est de l'information qui a été contribuée par des informations tripartites? Est-ce que c'est de l'information qui a été regardée de manière éventuellement contradictoire par des consultants, par des analystes, par des réseaux sociaux? Toutes ces questions-là d'attribution de la donnée sont un premier pan, mais qui fait que du coup, ensuite, j'ai besoin de les incorporer dans mes systèmes. Et dans mes systèmes, je vais commencer à regarder si oui ou non, ça cadre avec la typologie d'investissement que je dois réaliser. C'est mon deuxième problème sur pouvoir faire de l'investissement green, ou sociétal, ou autre en règle générale, en tout cas sur ces nouvelles règles ESG. Le dernier point, en fait, et c'est là que Research Pool adresse avec les investisseurs le sujet, c'est de dire, en fait, l'information, la technologie ne permet pas de réaliser la transformation de la finance des web. Le levier, c'est ce que quelque part, vous êtes en train de dire avec les différents projets autour de l'Union européenne, les leviers pour transformer sa manière de fonctionner Day One, c'est une impulsion du management vis-à-vis de ses gérants ou vis-à-vis des gens qui font l'investissement, en leur disant, maintenant, on fait comme ça, maintenant, on a ce regard en se disant, voilà, je vais investir uniquement dans les sociétés qui ont une valeur green plus importante. Je ne sais pas quel label on peut utiliser, je vais utiliser green pour moi. À partir du moment où cette impulsion-là, il faut qu'il y ait deux regards. Il y a le regard du gérant qui va se positionner sur les actifs financiers dans lesquels il investit et qui dit « Je regarde les actifs financiers non seulement sur leur logique de performance financière, mais sur leur performance extra-financière aussi. » Et j'essaie de deviner le futur. Est-ce que demain, la boîte L'Oréal, ou la boîte BNP Paribas ou la boîte Total sera un meilleur candidat green que les autres? Est-ce que je devrais investir plus sur ce truc-là pour essayer d'impulser cette dimension-là dans mon portefeuille? Donc le gérant, lui, doit pouvoir regarder à côté l'information financière et l'information extra-financière. C'est ce qu'on lui offre à l'intérieur de notre plateforme, et aujourd'hui, c'est ce qui lui permet d'infléchir son mode de fonctionnement et de favoriser sa transformation même de fonctionnel. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne? Et puis ensuite, il y a aussi le regard de ses patrons. C'est comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est, on a l'exemple de BlackRock avec ses pairs tout à l'heure. BlackRock qui donc a plus de 1000 gérants aujourd'hui avec différents portefeuilles, qui vont capter de l'information qui vient de, effectivement, un Prévost, qui vient d'un RobecoSAM, qui vient de toutes ces agences qui font de l'information extra-financière, peut-être aussi du Carbon Project. Mais le fond, c'est que c'est cette information que BlackRock recueille. Les managers ne voient pas qui sont les gérants qui ont acquis, qui sont dans une logique de transformation de leur portefeuille vers plus d'extra-financiers, vers plus de rendement extra-financier et plus de bonheur pour la planète. Donc du coup, il faut une couche qui, au-delà de mettre à disposition l'information pour le gérant, remonte de l'information sur les patrons, sur les gens qui sont en charge de la supervision CSR de BlackRock ou de n'importe quel autre acteur, pour dire oui, effectivement, on est en train de consommer et on est en train d'investir, de consommer plus d'intelligence extra-financière que ce qu'on faisait auparavant, et on est en train de transformer nos portefeuilles, de ce fait, vers quelque chose qui est plus vertueux. Voilà comment ça se retrouve chez nous. Maintenant, en termes de chiffres, les chiffres réels de transformation sont beaucoup plus longs que ce qu'on peut imaginer. Hein. C'est-à-dire que l'échelle à laquelle les asset managers sont capables de se transformer, on parle de dizaines de millions par mois uniquement à l'échelle de chaque franchise. Enfin, c'est pas suffisamment puissant aujourd'hui dans la démarche. J'aime beaucoup l'image de la tour Eiffel dans laquelle on enlève les clous. On espère que le dernier clou qu'on va enlever va faire que d'un seul coup ça va bouger, mais il faut changer les processus pour commencer.
Ok, merci. Un autre pilier du changement, c'est le changement des comportements. Là, on parle de changement de comportement au niveau des investisseurs, mais il y a aussi le changement des comportements au niveau des consommateurs dont on a beaucoup parlé. Paygreen, c'est partie ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail comment vous essayez d'être actif sur ce sujet, si vous voyez par exemple déjà une évolution des comportements à travers la plateforme que vous avez, comment agissent vos clients, est-ce que vous voyez une modification importante du comportement, etc.
Bah, clairement, il y a effectivement les investissements qui doivent être revus pour privilégier un certain nombre de projets. Sur le comportement des consommateurs, effectivement, bah, on a cité Yuka tout à l'heure. Nutri-Score, quand il est apparu, au départ, on a dit qu'on va empêcher les gens de consommer ce qu'ils veulent. Finalement, on se rend compte qu'ils ont un pouvoir pour modifier directement les recettes des marques qui sont distribuées. Donc, chez Pellegrin, on s'est dit qu'on peut exactement faire la même chose, puisqu'on a de la donnée qui nous permet de collecter les informations concernant les émissions de gaz à effet de serre. On peut très simplement proposer un nouveau critère de choix dans la consommation, au-delà du prix et de la qualité du produit, c'est-à-dire j'achète de la merde, c'est pas cher, j'achète de la qualité, c'est cher, et bien là, on va dire, voilà, j'ai l'empreinte environnementale du produit que je suis en train d'acheter, ça peut être un critère d'achat, et ça peut aussi permettre à des gens, dans l'expérience qu'on va proposer, par exemple, de dire, quand je choisis mon mode de livraison, si je prends un mode express, je consomme plus de CO2, si je prends un mode lent, je consomme moins, en fonction du prestataire, en fonction de tout ce que je vais pouvoir sélectionner dans la chaîne de valeur, eh bien, je vais avoir un impact plus ou moins important. Donc, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Paygreen, avec son algorithme, c'est ni plus ni moins un climate score, en quelque sorte, qu'on est en train de mettre en place. Pour l'instant, ça y va doucement, parce que les marques sont encore en train de se poser des questions sur la réceptivité, enfin, on va dire le côté anxiogène de présenter ce type de choses aux consommateurs. Exactement ce qui s'est passé quand les Nutri-Score se sont mis en place, c'est-à-dire, est-ce que finalement, si je mets un D sur Nutella, les gens vont arrêter de consommer du Nutella? Non, mais ils ont l'information. Donc c'est très important pour nous de donner un nouveau choix aux consommateurs. Et après, à la marque ou au consommateur de décider s'il fait un effort financier pour financer le crédit carbone. Nous, notre mission, elle est dans, c'est notre baseline chez Paygreen, c'est donner un impact positif à chaque transaction. Et ça commence par d'abord donner de l'information. Et donc, effectivement, il y a une modification des comportements. Et aujourd'hui, je pense que les gens sont juste en attente de ça. Et par rapport à ce qui se disait tout à l'heure sur la capacité d'avoir une estimation juste, parce qu'il y a un milliard de façons de calculer tout ce qu'on veut, je dirais que oui, c'est important que ce soit une estimation juste, mais déjà commençons par de l'information. On est une start-up, on a commencé par... je prends souvent le schéma du skateboard, c'est-à-dire on identifie un besoin de mobilité, par exemple. On fout un skateboard sous les pieds du client, et puis au fur et à mesure, on présente une trottinette, un véhicule, et puis on arrive vers la Ferrari. On ne commence pas directement à essayer de vendre des Ferrari. Mais là, c'est un peu le même processus qu'on est en train de mettre en place, c'est-à-dire processus, ou une Prius, ouais, ou une, quelque chose d'alternatif. Effectivement, l'important, c'est de commencer à présenter l'information et qu'elle soit accueillie de façon à ce qu'on puisse et faire changer les comportements et aussi faire changer les marques. Parce que, effectivement, à l'image des investissements, faire changer d'avis le grand patron de chez Nutella de modifier la recette, on peut se lever de bonheur. Par contre, si les consommateurs décident d'acheter effectivement un produit alternatif qui est la même saveur, le même produit, on va dire, mais produit autrement, le grand patron n'aura pas de choix, en fait. C'est-à-dire que exactement ce qu'est en train de faire Yuka, enfin,
est en train de provoquer Yuka, c'est-à-dire bah, finalement les recettes sont revues parce que les consommateurs ont eu l'information et ils ont le pouvoir de changer leur consommation.
Ouais. Merci. Alors un sujet notamment que mis en avant Michel Ivanovski tout à l'heure, c'est aussi peut-être l'impact des plateformes elles-mêmes, donc du mode de distribution, et même peut-être de l'usage d'applications dans ce domaine. Est-ce que vous prenez ça en compte? Et après, peut-être Michel Ivanovski pourra nous expliquer comment ils prennent ça en compte et son impact de la digitalisation sur le bilan carbone. Est-ce que vous avez déjà pensé à intégrer ça?
Alors en fait, il y a, si on doit catégoriser les clients, il y en a deux grandes catégories. Il y a ceux qui veulent embarquer leur communauté dans un changement, par souci de transparence. Il y a beaucoup de marques qui ont des politiques RSE qui sont basées sur la transparence. Donc tout simplement, c'est des marques qui vont vouloir juste donner l'information. Et puis, il y a des grands acteurs, je ne peux pas les citer évidemment, mais avec qui on commence à travailler, des très très gros acteurs mondiaux, qui sont en train de se positionner. Donc là, l'idée, c'est de se dire quel est le réel marché qu'on peut attaquer en se positionnant, en étant leader de notre marché avec une politique RSE forte. C'est-à-dire, on va reprendre par exemple le marché automobile. Quand on se positionne contre un constructeur automobile, on dit, bon, on va aller sur le véhicule électrique, est-ce qu'il y a vraiment une profondeur de marché? Donc il y a ces marchands-là, enfin, ces marques-là qui vont se dire, voilà, on attaque le marché que si le marché est très profond. Donc il y a deux catégories, on va dire, deux grandes catégories. Et aujourd'hui, pour la plupart de nos clients, encore, c'est juste des soucis de transparence et aussi beaucoup le fait d'embarquer leur communauté. Enfin, pour, je ne sais pas qui a comme grande marque dans l'Assemblée, mais en gros, il y a des politiques RSE avec des financements assez colossaux sur l'achat de crédit carbone. Ça passe de façon tout à fait inaperçue du point de vue du consommateur. Et là-dessus, ils se disent quels sont les outils mis à notre disposition pour que l'effort financier qu'on fait soit visible par nos clients et comment on fait pour embarquer nos clients dans la politique RSE qu'on est en train d'appliquer. Principalement ça, deux catégories de clients.
Merci. Michel Ivanovski, peut-être vous
oui, encore sur le sujet aussi. Donc, je pense qu'il y a une idée qu'on a un petit peu tous et qui est partagée quand on voit les différentes interventions de ce matin, c'est que une des clés pour accompagner la transition énergétique, c'est d'avoir recours à davantage de technologies et davantage de numérisation de services, à la blockchain, on a vu un certain nombre de choses. Moi, je vous invite à lire un rapport qui est vraiment intéressant par rapport à cette problématique de l'usage du numérique par rapport à cette transition énergétique. C'est le Shift Project, qui pose les enjeux de manière assez intéressante et sur lequel je pense que toute FinTech devrait se questionner par rapport à ce rapport. Aujourd'hui, le numérique, ça pèse environ 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau monde. Donc, je m'intéresse à l'empreinte carbone, simplement. C'est deux fois le secteur aérien, déjà. Voilà. Si rien n'est fait, si on continue comme ça, si on continue de numériser à outrance, sous prétexte, on va doubler dans les 5 années. C'est-à-dire qu'on sera. Le numérique, l'empreinte carbone du numérique, sera équivalente à celui de la voiture particulière. Donc il y a aussi un sujet de comment accompagner cette transition énergétique sans ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que les actions et les investissements que je vais faire, il ne va pas falloir que ça, au final, ça dégrade plus que ça n'apporte davantage. Et donc effectivement, comme vous, je pense que la clé, c'est déjà d'apporter de la mesure et de l'objectivité sur l'action que l'on a quand on mène une action de digitalisation, donc au travers par exemple d'un bilan carbone. Et donc nous, c'est une démarche qu'on a entreprise de systématiser, à côté d'une opération de digitalisation d'un processus financier, la réalisation d'un bilan carbone. On a modélisé, pas pour le consommateur, mais pour la digitalisation d'un processus financier, la réalisation d'un bilan carbone. Ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on peut en tirer comme premier enseignement? C'est que quand on fait une opération de digitalisation, sur le secteur nous qu'on adresse, qui sont les sociétés de gestion, les plateformes de crowdfunding, une digitalisation, donc je passe grosso modo du papier à du numérique, on gagne minimum 30%. On réduit de 30% les émissions de gaz à effet de serre. Peut-être 50, ça dépend des. Si on avait une démarche d'éco-conception, c'est-à-dire que la façon de mener la digitalisation différemment, à la fois dans la conception de la R&D du logiciel, à la fois de concevoir des usages du logiciel qui soient différents pour pouvoir avoir un usage plus sobre en termes de numérique, fait qu'on pourrait encore diviser par deux cette consommation. Donc ça passe, tout ça, ça passe par de la mesure, par du bilan carbone. Donc déjà connaître un petit peu l'impact que cela a, et systématiser finalement la partie du bilan carbone dans la consommation, dans la numérisation, dans toute action, n'est pas quelque chose de forcément très compliqué, puisque du coup, vraiment, moi je recommande.
Peut-être vous pouvez aussi développer comment ça s'inclut dans votre offre globale des services que vous proposez avec MIPIS, qui fait en partie de la digitalisation, mais de la digitalisation optimisée.
Pour l'instant, c'est très récent comme démarche. C'est d'abord une sensibilisation vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire que nos clients qui abordent, quand ils viennent nous voir et qui souhaitent digitaliser des processus financiers, ils ne viennent pas nous voir pour le bilan carbone, ils viennent nous voir pour digitaliser. À partir du moment où on leur apporte cette information-là, ils sont intéressés de pouvoir bénéficier assez facilement de cette information parce qu'eux-mêmes, en fait, sont aussi dans une démarche de trouver des projets sur lesquels ils sont dans cette démarche actuelle de toute entreprise. Ça fait largement un projet aujourd'hui. Donc, en fait, pour l'instant, c'est une cerise sur le gâteau. Je pense que progressivement, ça deviendra presque un incontournable.
Ok, merci. Peut-être on va passer la parole à Kevin Dedieu, enfin, sur peut-être un autre versant qui touche plus disons, dans ce que moi j'appellerais l'adaptation au changement climatique. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail en fait, comment vos solutions elles peuvent contribuer à l'adaptation au changement climatique de manière peut-être globale et vous avez mis en avant en particulier ce problème de l'insurabilité ou non de certains risques étant donné les évolutions climatiques, comment aussi sur ce point particulier vous pouvez vous pouvez donner une information pertinente et essayer d'optimiser les processus.
Oui, alors effectivement nous on répond effectivement au changement climatique et donc on est dans une phase d'adaptation. Et aujourd'hui, effectivement, il faudrait beaucoup plus investir sur cette partie adaptation, puisque ça se passe maintenant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans 20 ans, 50 ans. Et malheureusement, nous, ce qu'on observe tous les jours, c'est que toutes les prédictions sont revues à la hausse tous les 6 mois, tous les 12 mois. On ne sait pas exactement les raisons pour lesquelles, ça a été un peu loupé là-dessus, mais en gros, ce qu'on se pensait arriver en 2100, à arriver en 2050, et c'est plutôt 2030 maintenant dans certains scénarios. Qu'est-ce qui va se passer globalement en termes de. Enfin, quels sont les risques qui sont impactants, notamment sur la surhabilité des biens? On a tout ce qui est sécheresse et feu de forêt. En France, on a donc c'est la chaleur. En France, c'est un énorme sujet. Je pense que vous avez tous regardé l'information avec cette sécheresse. Et qui a fait beaucoup de dégâts sur notamment les sols argileux. Peu de forêt. En Californie, 2018, ça a été le plus gros incendie et l'événement le plus coûteux de l'année 2018. Il faut savoir que suite à ce feu de forêt, il y a maintenant beaucoup d'entreprises qui ne sont pas assurées du tout en Californie contre le risque de feu de forêt. C'est-à-dire, si y a un feu de forêt, aujourd'hui, les sociétés ne sont pas assurées et donc elles déposent le bilan. Ensuite, on a tout ce qui est parti vent, tout ce qui est cyclonique. C'est un vrai sujet, notamment pour nos territoires d'outre-mer, qui vont avoir plus régulièrement des ouragans de catégorie 5. Alors, on a appelé 6, mais il n'y a pas vraiment de 6, mais c'est des bêtes encore de plus en plus grosses et de plus en plus monstrueuses. Et où là, effectivement, si on n'a pas des codes d'habitation suffisants, ça va être compliqué. Et ensuite, c'est tout ce qui est inondation, et surtout inondation par la mer. Pour donner un ordre de grandeur, par exemple, prenez le port de Boston, je ne vais pas prendre une ville française pour ne pas faire peur, mais le port de Boston, vous avez beaucoup de sociétés qui sont sur le port de Boston, et il y a eu une réévaluation là, du risque de submersion du port. On est passé finalement à une période de retour, donc on va dire que ça va arriver. Maintenant, donc il y a 5 ans, on disait tous les 500 ans, et en fait, maintenant, c'est tous les 50. Donc, c'est-à-dire que cette année, on pense qu'il y a une chance sur 50 pour que le port de Boston soit submergé. Ça veut dire quoi en termes d'impact? C'est 10 fois à peu près votre prime d'assurance. Donc, si vous prenez votre police d'assurance, il faudrait que vous dites, en fait, je vais payer 10 fois l'année prochaine à suite de cette révision statistique. Nous, qu'est-ce qu'on apporte comme solution? Justement, des clients qui sont dans ce type-là, on va prendre le client qui est sur le port, on va lui dire, voilà, vous allez vous faire augmenter de 10 fois, 15 fois l'année prochaine, si vous ne faites rien. Et donc, comment est-ce qu'on l'accompagne? On lui dit, il faut construire une digue, il faut mettre un mur anti-inondation. Ça va vous coûter cher, oui, mais ça va vous coûter moins cher que votre augmentation de prime d'assurance, voire le fait que vous ne puissiez plus être assuré. Et donc, comment est-ce qu'on va, nous, apporter une solution? On va lui dire, voilà, on vous assure avec ce mur, en mettant une caméra, un capteur, qui va permettre de vérifier la hauteur d'eau et que le mur a été bien construit et que protège de l'avancée de la mer. Pareil sur effectivement du cyclonique en disant voilà, on va construire avec des matériaux qui font qu'on va résister à du ouragan catégorie 3, catégorie 4. Et donc, on va permettre avec tous les attaques qu'on a en ce moment à chaque fois, à chaque événement, de dire voilà, il y a eu un ouragan qui est arrivé, il y a une force catégorie 3. Normalement, vous n'avez pas de dommages. Ici, c'est 4 ou 5, par contre, là, effectivement, vous avez droit à une indemnisation parce que vos codes de structure ne sont pas suffisants. Donc, effectivement, on va accompagner les sociétés et les entreprises qui sont aujourd'hui très peu sensibilisées sur le sujet. Je tiens à le noter. Et la prise de conscience arrive là depuis 6 mois ou 12 mois seulement à cause effectivement de ce qui s'est passé dans les dernières années en termes de sinistres sur le marché d'assurance mondiale. Et ça va être surtout à partir international. Mais effectivement, la France aussi, la France a la chance d'avoir un système protecteur pour les particuliers et pour les entreprises, le système qu'on appelle le régime CatNat. Mais malheureusement, il va sans doute devoir subir des modifications parce que justement, il y a des coups de butoir de ce réchauffement climatique qui fait que certaines zones vont être de plus en plus difficilement assurables si on ne prend pas des mesures fortes pour justement numériser, par exemple, l'écart d'impact sur mettre à disposition ça pour l'entreprise pour dire voilà, il va y avoir une augmentation de 1 mètre dans cette zone-là. On a vu ça encore sur Venise, hein, en Méditerranée. Ça pourrait arriver sur une ville du sud de la France avec des submersions locales. Et donc de pouvoir permettre d'apporter des solutions d'assurance qui soient plus économiques, puisque les solutions pour les acteurs traditionnels vont devenir de plus en plus compliquées.
Merci beaucoup. Je pense qu'on peut peut-être ouvrir le débat à la salle s'il y a des questions pour certains des intervenants. Sinon, s'il n'y en a pas, moi j'ai une question spécifiquement à propos de la dernière présentation. Au sujet de qu'est-ce qui est du ressort de l'investissement public et de l'investissement privé dans ce domaine de l'adaptation. Le client qui construit la digue sur le port de Boston, c'est le port ou c'est
non, aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs et ça, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de start-up qui sont dans ce sujet-là, pas assez en France d'ailleurs, beaucoup dans les pays anglo-saxons, mais je pense que ça devrait venir en France, pour justement des dispositifs mobiles, par exemple, que vous installez, c'est assez efficace, qui vous permet de résister voilà, à une arrivée d'eau de 1 mètre. Donc, c'est des choses qui se gonflent et qui peuvent être mises par l'entreprise. Et effectivement, sur d'un point de vue protection publique, il y a un vrai sujet peut-être du rôle de l'État sur certains aménagements d'ouvrage. On voit ce qui s'est passé là dans le Var. C'était problématique, une rupture de digue qui a inondé une partie de Fréjus. Et donc, il y a beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là, et à la fois du côté entreprise qui peuvent prendre des actions locales, mais c'est vrai que pour les particuliers, c'est plutôt sans doute des collectivités locales.
Merci.